Je voudrais juste vous donner quelques clés de la fois dernière. En fait, j'ai pas lu tous les textes et je voulais vous expliquer pourquoi il y avait tel ou tel texte. On en était resté à la question de l'offrande de soi et je vous avais parlé de la participation à l'Eucharistie, hein, dans le sens que l'offertoire, c'est. Donc je fais un petit rappel sur la dernière fois, hein, avant aujourd'hui. L'Eucharistie, donc, c'est le lieu où on va offrir du pain, du vin, et à travers l'offrande du pain et du vin, eh bien, c'est l'offrande aussi de nos vies que nous apportons. Et du coup, participer à la messe, c'est pas jouer de la guitare, mais c'est s'apporter, c'est vouloir rentrer dans ce mystère d'offrande pour être nous-mêmes offerts. Et alors, du coup, le document sur la liturgie du Concile Vatican II parle de ça au numéro donc 3, le texte de la dernière fois. Hein. Nécessité des dispositions personnelles pour que l'Eucharistie porte du fruit. Voilà, c'est le texte de la dernière fois. Alors, je lis. C'est donc de la liturgie et principalement de l'Eucharistie comme d'une source que la grâce découle en nous. Et qu'on obtient avec le maximum d'efficacité cette sanctification des hommes et cette glorification de Dieu dans le Christ. Donc de l'Eucharistie, on a une source de sainteté, ça nous rend saints, c'est ça que ça veut dire, qui est extraordinaire, et on rend gloire à Dieu, on rend grâce à Dieu de manière très juste. On le verra, hein, tout à l'heure qu'on verra la préface. Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce. Voilà, tout ça, c'est ça que ça veut dire d'ailleurs, hein. Alors je prends le numéro de dessous. Mais pour obtenir cette pleine efficacité, il est nécessaire que les fidèles accèdent à la liturgie avec les dispositions d'une âme droite. Bon, voilà, il faut que ce soit en état de grâce, quoi. Bon, c'est ce que ça veut dire. Et ensuite, qu'ils harmonisent leur âme avec leur voix. Et qu'ils coopèrent à la grâce d'en haut pour ne pas recevoir celle-ci en vain. C'est pourquoi les pasteurs doivent être attentifs à ce que dans l'action liturgique, non seulement on observe les lois d'une célébration valide et licite, mais aussi à ce que les fidèles participent à celle-ci de façon consciente, active et fructueuse. Donc, si je comprends bien, d'accord, la liturgie, c'est ce qu'il y a de plus grand, c'est vraiment ce qui peut me rendre saint. Vous prenez une Marthe Robin, hein, elle s'est nourrie que de l'Eucharistie, elle vivait que de ça. Mais il faut quoi? Il faut que. Bon, j'ai une âme droite, ça c'est clair. Bon. Et ensuite que qu'ils harmonisent leur âme avec leur voix. C'est un petit peu comme dans les psaumes. Dans les psaumes, on dit des choses, et dans un deuxième temps, il faut dire, ah mais attends, ce que je viens de dire, il faut que je le vive. Voilà. Et souvent, c'est l'inverse. Souvent, on pense des choses, on réfléchit des choses, on vit des choses, et ensuite on parle. Souvent, c'est ça. Bon, la pensée fonctionne comme ça. On pense, et puis ensuite on parle. Là, c'est l'inverse. Tu vas entendre dans les liturgies, je parle des psaumes, mais je parle aussi de la messe. Hein. Enfin, là, c'est au sens large, parce que, enfin, si, remarque, ils disent principalement de l'Eucharistie. Donc, dans l'Eucharistie, j'entends des choses, et donc, je vais harmoniser mon âme à ce que j'entends et à ce que je dis. Participer à la messe, c'est harmoniser, c'est dire, mais, enfin, c'est sans cesse rentrer dans quelque chose de réflexif. Enfin, de retour sur soi en disant, est-ce que ma vie, je vis ce que je dis ou je vis ce que j'entends? Vous voyez, c'est pas jouer de la guitare, c'est ça. Hein. Et ensuite, qu'il coopère à la grâce d'en haut pour ne pas recevoir celle-ci en vain. Bon. Donc, faut coopérer à cette grâce. Maintenant que j'ai harmonisé, que j'ai intériorisé, que cette parole qui était extérieure à moi, elle devient intérieure, et bien ensuite, faut que je coopère, faut que j'agisse. Bon. C'est pas simplement au niveau de la pensée, c'est plus que la pensée. Et de cette manière-là, eh bien, on va parler d'une participation. Hein? Les pasteurs vont veiller à ce que les fidèles participent, je vais le mettre en gras ce mot participe, tiens, à celle-ci de façon consciente, active et fructueuse. Voilà. La participation des fidèles, c'est ça. Donc ça, je trouve ça assez intéressant. Voilà. Ensuite, vous aviez ensuite un texte sur l'offrande de soi, mais là, il n'y a pas besoin de... Je donne des détails. Le texte sur silence de l'offertoire. Bon, vous le lirez. Hein. L'offertoire se fait en silence. Il est souvent accompagné de musique. Normalement. En fait, je voulais vous dire un petit truc. Oui, c'est ça. Vous avez remarqué que... Bon, non, je vais le dire tout de suite après. Bon. Je vais revenir là-dessus. L'eau et le vin. On met une petite goutte d'eau dans le vin. Bon, ça, c'est pour signifier la participation de notre personne au Christ, en fait. Hein, la phrase, c'est... Voilà, comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Ouf. Donc voilà, on demande cette union, on demande cette divinisation, c'est tout ça hein, qu'on demande. Voilà. Donc ça, c'est ce que je voulais vous dire. Et puis, avant de passer aujourd'hui, je voulais aussi qu'on comprenne bien les quatre moments de la messe qui sont ponctués par ce qu'on appelle l'oraison. Une oraison, c'est une prière. Donc vous avez le premier moment qui est le rite d'entrée, qui va se conclure par l'oraison d'ouverture. Prions le Seigneur. D'accord? Bon, ça c'est le rite d'entrée. Ensuite, on a au terme donc de la liturgie de la parole, l'oraison de la prière universelle. On a toutes les lectures. Après les lectures, l'homélie. Après l'homélie, credo, prière universelle. Et à la fin de la prière universelle, on conclut par une oraison. Seigneur, viens exaucer toutes nos prières. Deuxième partie. Au terme de l'offertoire, donc l'offertoire, c'est un petit peu comme le... Comment dire, c'est un... On va avoir à l'offertoire un chant qui accompagne un geste. L'offertoire n'est pas obligé d'être fait à voix haute. Dans le missel, c'est en italique. C'est pas obligé à... Et normalement, il y a un chant qui accompagne, et en silence, on s'offre, enfin, on dépose notre vie. Plutôt, c'est plutôt le moment où on dépose notre vie. Il va y avoir un temps de l'offrande qui va être un peu plus tard, avec le par lui, avec lui, avec lui et en lui. Là, on va vraiment s'offrir dans ce avec lui. En tout cas, au terme de l'offertoire, nous avons une oraison sur les offrandes. Voilà, vous avez d'ailleurs dans Prie en Église, Magnificat, là. Et là, nous avons donc un chant qui accompagne un geste, exactement comme dans le chant d'entrée. Le chant d'entrée, il accompagne la procession d'entrée. Une fois que la procession est terminée, le chant s'arrête. Pas la peine de faire 10 couplets si le prêtre est à l'autel, que voilà. Et de même qu'on voit bien l'organiste, une fois que l'offertoire est terminé, il arrête le chant, enfin il arrête l'orgue. S'il n'arrête pas, ça fait un peu bizarre, ça fait un peu concert. Voilà, c'est la même chose. Et au terme de la liturgie eucharistique, nous avons l'oraison après la communion. Voilà. Vous voyez, ces quatre oraisons qui concluent le rite d'entrée, le rite de la parole, le rite de l'offertoire et le rite, enfin la liturgie de l'Eucharistie. Voilà. Comme ça, on visualise bien ces séquences. Voilà. Je passe donc à aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons voir la grande prière eucharistique. Nous avons apporté le pain, le vin, ils ont été présentés au Père, voilà, suivant un peu une tradition juive. Là, je ne peux pas reprendre en détail toutes les paroles, en quoi chaque parole de la messe est en lien avec les paroles déjà de bénédiction, d'action de grâce juive, parce qu'il faudrait plus que 12 heures. Mais on va essayer d'éclairer ces prières eucharistiques en deux temps, aujourd'hui et puis la fois d'après. Voilà. Et après, on arrivera au Notre Père. Alors, nous allons entrer dans la grande prière eucharistique. Eucharistie, ça veut dire action de grâce. Hein. Cette action de grâce qui commence à l'offertoire. Dans l'offertoire, qu'est-ce que nous faisons? Nous rendons à Dieu ce qu'il nous a donné. Il y a toujours dans la messe un mouvement descendant et un mouvement ascendant. Descendant, Dieu nous donne des choses, il nous donne son Fils. Et ascendant, nous offrons notre vie, nous offrons le pain et le vin qu'il nous a donné. Et par cette offrande, eh bien, nous rendons grâce. Eucharistie, ça veut dire action de grâce. Voilà. Alors, j'aime bien ce texte de Maurice Vindel, le texte numéro 5. Donc, au dos. Alors, donc, c'est le poème de la Sainte Liturgie, donc c'est toujours très lyrique. S'il a été saisi d'effroi devant sa croix, quoi de plus naturel que nous reculions devant la nôtre? Bon. Mais il a commencé par rendre grâce dans la préface mystérieuse de la scène. L'Église nous apprend à faire de même dans la préface de la prière eucharistique. Dieu ne peut jamais vouloir avec une tendresse infinie que le bien de ses enfants. On peut toujours, avec lui, dire d'avance merci. On comprendra plus tard. Quand ce ne serait qu'au-delà de la mort, ce serait encore assez tôt. Bon. Voilà. Maurice Vindel, vous voyez, qui a bien conscience que l'Eucharistie, c'est quand même l'offrande, le sacrifice de Jésus. Mais, voilà. Justement, eh bien, on rend grâce, c'est comme une attitude générale, l'attitude de nos vies, c'est d'entrer dans la louange. Hein, priez sans cesse, soyez dans l'action de grâce, comme dit saint Paul. Voilà. Il y a une attitude fondamentale qui est l'action de grâce, et qu'on a dans la préface. Hein. La préface, qu'est-ce qu'on fait? On rappelle tous les grands faits de Dieu. Hein, donc la préface, je vous rappelle comment elle... Hein, c'est le texte, tout le monde voit ce que c'est que la préface, ça va? Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela, il est juste et bon. Et ensuite, je vais rendre grâce. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Pourquoi je rends grâce? Car chaque année, tu accordes aux chrétiens de se préparer aux fêtes pascales dans la joie d'un cœur purifié, de sorte qu'en se donnant davantage à la prière, en témoignant plus d'amour pour le prochain, fidèles aux sacrements qui les ont fait renaître, ils soient comblés de ta grâce. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints. Donc, vous voyez, je rends grâce car chaque année, tu accordes aux chrétiens de se préparer aux fêtes pascales dans la joie. Bon, là, je prie la préface du carême. En fait, Seigneur, je te rends grâce parce que tu as bien fait les choses et que tu as sanctifié le temps. C'est ça que ça veut dire. Vous voyez, ben oui, Seigneur, moi, tu me donnes d'avoir un rythme. Le monde n'a pas de rythme. Ben, si, il y a le 31, le passage de la nouvelle année. Mais c'est quand même beaucoup plus pauvre comme rythme. Eh ben nous, on est sans cesse, voilà, tous les deux mois, on chante... Ensuite, on va apprendre à ressusciter pendant 50 jours. Faudra être joyeux pendant 50 jours. Bon. Enfin, dans la louange, bon, etc. Alors là, voyez, bon, on rend grâce pour le temps liturgique, mais il y a d'autres préfaces. On rend grâce pour la venue de Jésus, on rend grâce pour l'ascension et les fruits qui découlent de l'ascension. Dimanche, on verra dans la transfiguration, ça va être le texte de dimanche, pourquoi on va rendre grâce. Ben, vous êtes... Nous écouterons de manière attentive, nous aurons une écoute attentive pour savoir en fait pourquoi il faut se réjouir, pourquoi il faut exulter. Donc toujours comme dans la tradition juive, on rappelle les hauts faits de Dieu. Vous savez, la Pâque juive, le repas du Seder, de la Pâque, eh bien on va rappeler sous forme de questions. L'enfant dit à son papa, alors qu'est-ce qui s'est passé cette nuit-là? Raconte-moi, papa. Ah, ben écoute, mon enfant, cette nuit-là, nous avons été libérés d'Égypte, nous avons vécu cela, nous faisons mémoire. Et en faisant mémoire, on rend actuel. La mémoire, j'en avais déjà parlé, c'est rendre actuel. Nous te bénissons parce que ce temps que tu as vécu, toi, au désert, de 40 jours, eh bien, nous le vivons pour nous maintenant. Il est actuel pour nous, ce temps de 40 jours. Ça, c'est extraordinaire. Voilà. Nous arrivons à revivre ce que toi-même tu as vécu. Et qu'est-ce que fait Jésus? Vous voyez, Jésus, il revit ce que le peuple hébreu a vécu. Le peuple hébreu a été au désert, il revit le désert. Voilà. Il se réapproprie l'histoire d'Israël. On rappelle les hauts faits de Dieu. Donc là, je parle de la prière eucharistique, le schéma de la prière eucharistique, les hauts faits de Dieu d'abord avec la préface, ensuite on va rentrer dans les intercessions pour l'Église, pour le monde, nous te prions pour l'Église, pour notre pape, François, pour notre évêque, Raymond, pour ceux-là, les prêtres, les diacres et tous les fidèles rassemblés. Et puis on te prie aussi pour tous les défunts. Voilà. Et au milieu de tout ça, nous avons le rappel, eh bien, des paroles du Seigneur le soir du Jeudi Saint. On va voir ça en détail. Là, c'est une vue globale. Grande action de grâce. Ensuite, intercession. Voilà. Et rappel des paroles du Christ le soir du Jeudi Saint. Et ensuite, à nouveau, une intercession. Voilà, pour nous. Alors, la préface, maintenant je m'intéresse à cette préface. Qu'est-ce que ça veut dire? On va prendre le texte numéro 1. Qui explique bien les choses. C'est maintenant que commence ce qui est le centre et le sommet de toute la célébration, la prière eucharistique. Prière d'action de grâce et de consécration. La prière invite le peuple à élever le cœur vers le Seigneur dans la prière et l'action de grâce. Il se l'associe dans la prière qu'il adresse à Dieu le Père par Jésus-Christ au nom de toute la communauté. Le sens de cette prière est que toute l'assemblée des fidèles s'unisse au Christ dans la confession des hauts faits de Dieu et dans l'offrande du sacrifice. Le prêtre, au nom de tout le peuple saint, glorifie Dieu le Père et lui rend grâce pour toute l'œuvre du salut ou pour un de ses aspects particuliers selon la diversité des jours, des fêtes et des temps. Oui, enfin c'est ce que je viens d'expliquer. Bon. Donc cette préface, le mot préface vient du mot latin praefari, P-R-A-E-F-A-R-I, qui veut dire parler devant ou parler avant. Parler devant ou parler avant. Donc, parler devant, au sens, c'est une parole solennelle dite devant Dieu. Voilà. Parole solennelle, invitation solennelle à entrer dans cette offrande, et aussi parler avant. Parler avant, un petit peu comme un préliminaire. Voilà, on va rentrer dans la prière eucharistique et on a comme une préface, comme une introduction. Comme on l'a plusieurs reprises dans la messe. Vous voyez, avant le rite pénitentiel, on nous dit « Préparons-nous ensemble à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. » Comme petite préparation. Ensuite, donc, dans ce parler aussi devant, il y a l'idée de parler haut, parler fort. Vous voyez, parler devant le peuple, parler, redire, voilà. Les beautés de Dieu, l'œuvre de Dieu. Ensuite, on a ce dialogue initial qui nous vient de Saint Hippolyte. Saint Hippolyte, c'est celui qui a donné naissance à la prière eucharistique numéro 2. Vous savez que la prière eucharistique numéro 2, 3 et 4 ce sont des prières qui ont été composées après la réforme liturgique du Concile. Ça ne veut pas dire non plus qu'elles sont nouvelles totalement, puisque la prière eucharistique numéro 2, eh bien, Saint Hippolyte, c'est 215, voyez, après Jésus-Christ. Donc c'est... Hein ? Ah, il est en Auvergne. Bon, voilà. Voilà. Alors, ce dialogue initial, je prends détail. Bon, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Voilà. Ah oui, alors, donc la préface. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Bon, là, on le sait, hein. Voilà. Le Seigneur est au milieu de vous, et vous, prêtres, rappelez-vous que vous avez donc un sacrement. Le Seigneur est avec vous, et vous allez nous introduire dans la liturgie des anges. Vous allez nous faire monter au ciel à ce moment-là. Donc, pour nous introduire dans la liturgie des anges, du ciel, il vaut mieux que vous soyez, que le Seigneur soit avec vous. Et alors, le prêtre dit, élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Élevons notre cœur. Oui, le Seigneur est descendu depuis le début de la messe. Il est descendu, il nous a purifiés. Il est descendu dans la parole. Hein, Isaïe 55. Hein, de même que la neige et la pluie descendent des cieux, en faisant son œuvre, hein, et il n'y retourne pas sans avoir accompli son œuvre. Eh bien, de même, la parole de Dieu descend, hein, comme dit Isaïe 55. Donc maintenant, suite à cette descente, il faut nous élever, nous. Hein, élevons notre cœur, c'est un peu notre réponse. Élevons notre cœur, c'est-à-dire, attention, quittons les soucis du monde. Hein, regardons en haut. Alors, vous pouvez reprendre des paroles de Dieu, je pense, au livre des Lamentations, chapitre 3, verset 40. Je lis. Examinons notre voie, scrutons-la, et revenons au Seigneur, élevons notre cœur et nos mains vers Dieu qui est au ciel. Voilà. Psaume 86. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme. Vers toi, je lève mon âme. Voilà. T'ouvre mon cœur. Colossiens 3, 1. Alors là, c'était psaume 86, verset 4. C'est les Lamentations, LM 3, 40. Colossiens 3, 1. C'est pour vous montrer, vous voyez, d'où viennent un peu ces paroles de la messe. Du moment donc où vous êtes ressuscité avec le Christ, recherchez donc les choses d'en haut, là où se trouve le Christ, assis à la droite de Dieu. Songez aux choses d'en haut, non à celles de la terre, car vous êtes mort et votre vie est désormais cachée avec le Christ en Dieu. Recherchez les choses d'en haut. Nous allons prendre le texte numéro 2. Élevons notre cœur. Je cite donc saint Augustin. Vous connaissez les mystères dans leur déroulement. En premier lieu, après la prière, on vous invite à tenir votre cœur en haut. Cela convient à des membres du Christ. En effet, si vous êtes devenu membre du Christ, où se trouve votre tête? Les membres du corps ont une tête. Si la tête n'avait pas dirigé le mouvement, les membres ne suivraient pas. Où est allée notre tête? Qu'avez-vous récité dans le symbole? Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel, c'est assis à la droite du Père. C'est donc au ciel qu'est notre tête. Aussi, quand on dit « le cœur haut » ou « élevons notre cœur », vous répondez « nous le tournons vers le Seigneur ». Voilà. Hein, vous avez le chant aussi qui reprend tout ça, c'est « Céleste Jérusalem hein. ». Notre cité se trouve dans les cieux. Voilà. Donc voilà. Donc je me rappelle, voyez, à ce moment de la messe, que je suis en pèlerinage, je suis sur la terre, mais que ma cité, notre cité se trouve dans les cieux, que je dois élever mon cœur, quitter un peu ce monde, mes soucis, mon roast beef qui est en train de cuire. Non, mais c'est la blague qu'on fait classiquement à chaque fois, ne vous inquiétez pas. Et Bricorama, où je ne vais pas aller l'après-midi parce que je ne fais pas de course le dimanche, même si c'est ouvert. Et je regarde en haut. Alors, nous avons la chance, vous voyez, dans nos deux paroisses, que quand on regarde en haut, eh bien, dans les deux, on voit le visage de Jésus. Hein. Ici, à Notre-Dame-de-l'Eau, avec cette croix, hein, élevons notre cœur, j'élève. Et voilà, je suis face au Christ, et à Saint-Pédis, avec la fraise, j'élève. Voilà, j'élève, et qu'est-ce que je vois? Le visage de Jésus. Hein. Je prends la basilique de Paray-le-Monial, c'est la même chose. Hein. On élève, qu'est-ce qu'on voit tout en haut de la basilique? Un Christ pantocrator, rappelez-vous. Bon. Je réponds, nous le tournons vers le Seigneur. Hein? C'est-à-dire, je vais mettre en quelque sorte comme Jésus est avec son Père. Qu'est-ce qu'on nous dit dans le prologue de Saint Jean, chapitre 1? Le Verbe était tourné vers Dieu. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était tourné vers Dieu. Comme dit saint Augustin, tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi. Tu nous as fait pour toi, en latin c'est ad te. Tu nous as fait vers toi. Nous sommes vers toi. Tournés vers toi. Voilà. Alors, vous avez un beau texte. S'il y avait un texte à méditer aujourd'hui, ça serait le chapitre 7 des Actes, avec le martyr d'Étienne. Comment ça commence? En fait, Étienne va rappeler tous les hauts faits de Dieu. Hein, il leur fait une grande catéchèse sur le plan du salut, un peu comme notre première partie de la messe. Donc c'est comme la première table qui est donnée. Et puis, à un moment donné, comme si le fait d'avoir redit la parole de Dieu, eh bien, Étienne est comme rempli de l'Esprit Saint. La parole de Dieu, vous voyez, elle est. Il y a un lien entre la parole de Dieu et l'Esprit Saint. Hein. L'Esprit Saint se donne à nous à travers la parole aussi. Hein. Nous sommes remplis de l'Esprit Saint par cette parole. Bon, j'ai plus le verset en tête, mais bon. Et qu'est-ce qu'on nous dit au chapitre 7, verset 55, après cette longue catéchèse d'Étienne? Verset 55, tout rempli de l'Esprit Saint, il fixa son regard vers le ciel. Il vit alors la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Ah, dit-il, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Et puis ensuite, Étienne va être lapidé. Voilà, c'est le martyr d'Étienne. Vous voyez que la messe, c'est un petit peu la même chose. Première partie, vous voyez cette grande catéchèse. Ensuite, tout rempli de l'Esprit Saint, nous nous tournons vers le Seigneur, nous fixons vers le haut. Hein. Nous comprenons bien que nous rentrons dans une nouvelle dimension qui va être l'offrande du Christ, cette offrande sur la terre qui rappelle l'offrande éternelle de Jésus. Au ciel, le Christ s'offre éternellement au Père, d'une manière non sanglante, mais il est éternellement au ciel, comment dire, le Fils dit « Entre tes mains, je remets mon esprit. Tout ce que tu m'as donné, je te le redonne. Hein? » Éternellement au ciel, le Père se donne sans cesse, et éternellement au ciel, le Fils se remet au Père. Bon. Et donc, je fixe donc comme Étienne mon regard vers le ciel. Et ensuite, je vais vivre, alors pas la lapidation, je ne vais pas être lapidé, mais je vais mourir. Le but, c'est de mourir avec le Christ, d'offrir notre vie. Voilà. Alors, nous le tournons vers le Seigneur, ça veut dire, oui, pour élever mon cœur au ciel, pour avoir mon regard fixé sur Jésus, il faut que je me tourne vers lui. Se tourner, c'est se convertir. Hein? Je regarde en haut, oui, notre cité se trouve dans les cieux, comment je vais au ciel? En me convertissant, en changeant de versant. Nous le tournons vers le Seigneur. Je vais faire ce mouvement de rotation. Hein? Parce qu'on parle en ski, on parlait ça, hein? Ce qu'on fait du ski, on parle du mouvement de conversion, voilà. On met les skis dans l'autre sens. Prenez le texte numéro 3. Cyprien de Carthage. nous le tournons vers le Seigneur. Que l'on retranche toute pensée charnelle et temporelle, pour n'avoir de soucis que des choses de Dieu. Que l'âme ne pense à rien d'autre qu'à ce qui fait l'objet de la prière. C'est pourquoi le prêtre, avant la prière eucharistique, prépare les âmes des frères par une sorte de prologue en disant « Élevons notre cœur » pour que, quand le peuple a répondu « Nous le tournons vers le Seigneur », ce soit une exhortation à ne penser qu'au Seigneur. Comment je vais élever mon être vers Dieu? En le tournant vers le Seigneur. Et ensuite, je réponds, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Alors, prenons le texte numéro 4. Vous répondez, nous le tournons vers le Seigneur. Je me convertis. Et pour que vous n'attribuiez pas ce fait d'avoir votre cœur vers le Seigneur à vos propres efforts, car c'est un don de Dieu d'avoir le cœur en haut. L'évêque ou le prêtre qui offre, après la réponse du peuple, « Nous tenons notre cœur en haut vers le Seigneur », continue, « Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. » Parce que nous tenons notre cœur en haut, rendons grâce. Car si ce n'était pas un de ces dons, nous aurions notre cœur à terre. Et vous l'attestez en disant, il est convenable et juste que nous lui rendions grâce à lui qui a fait que nous tenions notre cœur en haut vers notre tête. Donc vous voyez, saint Augustin dit, en fait, la capacité que nous avons à fixer toutes nos pensées, toute notre vie, alors c'est au moment de l'Eucharistie, mais c'est aussi, vous savez que l'Eucharistie, c'est un résumé de notre vie. Quand on apporte le pain et le vin, on apporte notre vie. Donc c'est toute notre vie qui doit être tournée vers le Seigneur. Et donc, cette œuvre-là, je l'attribue non pas à mes propres efforts, mais à la grâce de Dieu. C'est une grâce d'être converti. C'est pas que nos propres efforts, c'est une chance. Voilà, c'est un don de Dieu d'avoir... de ne pas être tiraillé, de pouvoir tout donner à Dieu. C'est un effort humain, mais c'est aussi un don de Dieu. Bon. Voilà. Cela est juste et bon. Alors ça vient du latin. Hein? Cela correspond à une expression courante dans le monde grec. Cela vient du latin « dignum et iestum est ». Bon, la formule, je ne vous la dis pas en grec, « axios kai dikaios »,« digne et juste », était en effet la formule par laquelle le peuple ratifiait une élection ou une décision importante en portant sur celle-ci un jugement de valeur digne et un jugement de droit. C'est juste. Oui, ce qu'on fait là, c'est digne. Et c'est droit, c'est juste. Donc ça veut dire quoi? Que rendre grâce est digne. La relation que cette action de grâce établit entre Dieu et nous est accordée au dessein de Dieu. L'action de grâce est digne de Dieu. Car c'est lui qui nous a rendus capables, qui nous en a rendus capables et nous en a confié la mission. Il est digne pour un chrétien de rentrer dans l'action de grâce. Voilà. Le chrétien, il s'est juste. En sens, c'est ajusté. Ça correspond à notre être. Notre être, il doit rentrer dans cette action de grâce. On disait que l'incarnation, vous voyez, au départ, les hérésies disaient, mais l'incarnation, le Fils de Dieu qui s'est fait homme, c'est pas digne. C'est pas digne. Un Dieu, il se fait pas homme. Voilà. Donc il y a des choses qui sont dignes, des choses qui sont pas dignes. Si, c'est digne de s'incarner. C'est digne de l'homme. L'homme est tellement grand que Dieu peut se faire chair. C'est digne pour l'homme, c'est ajusté de rentrer dans cette louange. Elle est juste, cette louange. Elle est à la hauteur de ce que Dieu a voulu en nous créant. Juste au sens, c'est ajusté, c'est la justice. Parce que nous devons rendre à Dieu ce qui lui est dû. Eh bien, ce qui est dû à Dieu, C'est cette attitude filiale qui rentre dans l'action de grâce. Voilà. C'est un des... ce que dit par exemple l'épître aux Romains, vous savez, au début, hein, ça va vous éclairer un peu plus, où saint Paul se plaint des païens qui n'ont pas rendu comme à Dieu gloire et action de grâce. Je vais vous lire. La colère de Dieu se révèle contre l'injustice des hommes. Pourquoi ? Parce que ce qu'on peut connaître de Dieu est pour eux manifeste. Les païens, normalement, en voyant la beauté du monde, devraient connaître Dieu, devraient aimer Dieu. L'athéisme est quelque chose de très nouveau. Quand on voit la création, la complexité du monde, vous devez dire que Dieu existe. C'est pas normal que vous pensiez que c'est le fruit du hasard. C'est que vous manquez de bon sens. Dieu, en effet, le leur a manifesté. Ce qu'il a d'invisible depuis la création du monde se laisse voir à l'intelligence à travers ses œuvres, son éternelle puissance et sa divinité. Voilà, tout ça, ça se voit à travers ses œuvres. En sorte qu'ils sont inexcusables, puisque, ayant connu Dieu, ils ne lui ont pas rendu comme à un Dieu gloire ou action de grâce. Mais ils ont perdu le sens dans leur raisonnement et leur cœur inintelligent s'est enténébré. Ils sont devenus fous. Voilà. Les hommes auraient dû rendre comme à un Dieu gloire et action de grâce. Alors, cette préface, elle a trois parties. Donc, je vous l'ai dit, une reconnaissance stéréotypée de la louange due au Père par la médiation du Christ. Le Seigneur soit avec vous. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours en tout lieu, à toi, Père très saint. Ça, vous l'avez tout le temps, à chaque fois. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je rends grâce à Dieu pour sa création, sa rédemption, voilà. Toi, ça me rappelle que la messe, elle est offerte au Père, voilà, par le Christ. Bon. Ensuite, bien sûr, voilà, la messe offerte au Père par le Christ. Deuxième partie de la préface, je reviens sur la terre. Hein, je suis plus au ciel, je reviens sur la terre. Oui, nous te rendons grâce parce que en ces temps, nous vivons, eh bien, un carême. Et donc, tu nous donnes de nous purifier. Vous voyez, je reviens ensuite à moi. Ce que je vis, le mystère, bon, que je célèbre, particulier, hein, qui me concerne moi dans ma vie. Et ensuite, nous avons l'introduction du Sanctus. Voilà. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous pouvons rendre, voilà, rendre grâce et dire. Ça va ? La médiation du Christ, le point particulier de notre vie, de notre temps liturgique, l'introduction au Sanctus. Voilà. Alors, vraiment, il est juste et bon. Vous voyez, on reprend. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon. Hein, ce que dit le prêtre, là. C'est juste, c'est adapté. Bon. De te rendre grâce, de te glorifier. Toujours et en tout lieu. Alors, toujours et en tout lieu, ça, c'est nouveau, ça. Cette expression « toujours et en tout lieu » renvoie à de nombreux textes du Nouveau Testament. Je prends Matthieu 28, 20. « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » 1 Thessaloniciens 5, 17. « En tout temps, rendez grâce à Dieu. Priez sans cesse en toutes conditions. » Éphésiens 5, 20. « En tout temps et à tout propos, rendez grâce. » Donc ça veut dire... je prends conscience que oui, c'est toujours et en tout lieu. Hein, vous voyez, ça veut dire dans toute ma vie, il faut que j'entre dans l'action de grâce. Tout d'un coup, je prends conscience que la messe s'étend à toute ma vie. Du coup, la préface, vous voyez, me pose une question, est-ce que je peux rendre grâce toujours et en tout lieu ? Est-ce que mon amour n'est pas changeant ? À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur. Voilà, je rappelle le destinataire. Alors, ensuite j'arrive dans cette partie variable, donc toujours, hein, préface, je détaille les choses, je fais du zoom, hein, tout le temps, hein, je zoome. C'est intéressant, vous voyez, parce que cette partie variable, elle est liée à la mémoire. Là, je vous ai dit carême, mais j'ai pas sélectionné des préfaces, mais bon, vous savez, prenez enfin d'autres préfaces. On va faire mémoire de tel ou tel point particulier. Pourquoi c'est important la mémoire? La liturgie, en fait, c'est une mémoire vivante. Je me rappelle des choses et ces choses-là s'actualisent. Quel est le problème des disciples? Le problème des disciples, c'est qu'ils n'arrivent pas à faire mémoire. Quand l'ange apparaît aux disciples, au chapitre 16 de Saint Marc, qu'est-ce qu'il leur dit? Il est ressuscité comme il vous l'avait dit. Donc, comme il vous l'avait dit. Ça veut dire qu'il dit aux disciples, dans la fin de Saint Marc, mais dans les autres aussi, ça veut dire, rappelez-vous, il vous l'a dit. Vous avez été scandalisé, vous avez déserté, mais enfin, il vous a dit qu'il allait ressusciter. Vous avez eu un problème de mémoire, les amis. C'est ça votre problème. Hein, la désertion des disciples, c'est d'abord un problème de mémoire. Le salut est une question de mémoire. Je signale que le péché originel est venu à cause d'un manque de mémoire. Qu'est-ce qu'on nous dit? Dieu dit à Ève, tu peux prendre de tous les arbres du jardin, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en prendras pas. Ça, c'est ce que Dieu a dit. Qu'est-ce que dit le serpent? Alors, Dieu vous a dit, vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin? Et qu'est-ce qu'elle rectifie? Elle rectifie. Ah non, Dieu ne nous a pas dit, il nous a simplement dit, de l'arbre qui est au milieu du jardin, vous n'y toucherez pas, vous n'y mangerez pas. Attends, c'est pas ce que Dieu a dit. Dieu n'a pas dit que vous ne pouviez pas toucher de l'arbre. Si tu veux toucher de l'arbre, tu peux toucher de l'arbre. Il n'a pas dit de l'arbre qui est au milieu du jardin, vous n'en mangerez pas. Au contraire, l'arbre qui est au milieu du jardin, c'est l'arbre de la vie. C'est celui-là qu'il faut manger. Ah, mais tout d'un coup, l'arbre qui est l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu l'as mis au milieu du jardin. Et d'un coup, il a pris une importance considérable dans ton esprit. Et voyez, le serpent, il a tronqué la parole. Alors Dieu vous a dit, vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin. C'est exactement la parole inverse. Dieu avait dit, vous pouvez manger de tous les arbres du jardin, sauf d'un arbre. Et là, il a inversé. Donc, vous voyez, le problème d'Ève, au départ, c'est qu'elle discute avec le serpent. Il ne faut jamais discuter avec le serpent. Il faut prendre la fuite. Et elle ne se souvient pas de la parole. Elle a un problème de mémoire. Donc, vous voyez, pour nous, c'est important, en entrant dans cette prière eucharistique, de nous rappeler, en fait, de ce que Dieu a fait. Parce que si Dieu a fait ceci, ça veut dire qu'il est capable de faire de grandes choses dans ma vie. Hein? Qu'est-ce que propose Saint Ignace dans ses exercices? Au numéro 234 des exercices de Saint Ignace. Il leur propose une contemplation. Je vais vous lire cette contemplation. Il faut à chaque fois demander quelque chose. Hein? Ce sera ici demander une connaissance intérieure de tout le bien reçu pour que moi, le reconnaissant pleinement, je puisse en tout aimer et servir sa divine majesté. Dans le premier point, je rappellerai à ma mémoire les bienfaits que j'ai reçus. Puis, faisant un retour sur moi-même, je me demanderai ce que la raison et la justice m'obligent de mon côté à offrir et à donner à sa divine majesté. Je ne vous ai pas mis ce texte, mais vous l'avez sur Internet. Hein. Les exercices de Saint-Ignace sont disponibles. Je vais donc, dans cet exercice, pas méditer une situation biblique, mais me rappeler tous les bienfaits que j'ai reçus. Puis faisant un retour sur moi-même, donc le retour sur moi-même, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on doit harmoniser leur âme avec leur voix. Vous vous souvenez, hein? le texte du concile, ou faisant un retour sur moi-même, je me demanderai ce que la raison et la justice m'obligent. Il est juste et bon. Ben, qu'est-ce que la justice m'oblige de mon côté à offrir, à donner à sa divine majesté? La première chose, c'est ce qu'elle m'oblige, c'est l'action de grâce. Voilà. La première chose que, face à ce que je vais méditer, c'est de savoir rendre grâce. Hein? Et la deuxième chose, c'est Seigneur, j'ai tellement reçu, qu'est-ce que tu veux pour moi? C'est quelque chose qu'on vit à un moment donné dans le parcours Saint-Marc, par exemple. Ben oui, j'ai reçu beaucoup, enfin en tout cas les gens le disent, j'ai beaucoup reçu, là maintenant qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Voilà. Tu as fait des choses, alors qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, vous voyez, pour nous, dans notre vie spirituelle, d'une part, notre reconnaissance à Dieu, notre action de grâce est liée à notre mémoire, et aussi notre progrès dans la vie spirituelle est lié à notre mémoire. Je pense à des communautés, hein, pour en citer une, mais d'autres. Enfin, les manuels, quand ils ont des... Nous avons une petite maisonnée donc, chaque semaine. Le but, c'est de faire mémoire. Voilà. Qu'est-ce que Dieu a fait dans ma vie? Voilà. Là, depuis la semaine dernière, comment il me parle à travers la parole? Voilà, les équipes Notre-Dame, c'est le même fonctionnement. Enfin, on est plein de groupes où on va essayer de faire mémoire. Bon. Et parce qu'il y a une mémoire, eh bien, il y a un progrès. Qu'est-ce qu'on fait en accompagnement spirituel? Quand je vais voir un père spirituel, il va me dire, bon, alors qu'est-ce que le Seigneur t'a dit depuis la dernière fois? Voilà. Si je ne sais pas ce que le Seigneur me dit, bah, je suis comme la feuille sur une rivière qui descend le courant. Qu'est-ce que le Seigneur? Ah, Seigneur, tu me dis en fait que... Alors, ça a été à travers une parole de Dieu ou à travers un événement, tu me dis qu'il faut que je fasse attention parce que, je sais pas moi, on m'a dit, tiens, quand je prends une décision, je la prends tout seul. On m'a dit ça une fois, deux fois. Ah, ben oui, alors peut-être, alors ça veut dire qu'il faut que je travaille en ce moment, Seigneur, en prenant des décisions avec d'autres davantage. Ah, je n'avais pas pensé à ça. Chérie, ma chérie, j'ai acheté la table de ping-pong. Ben, tu m'en as pas parlé. Mais pourquoi? Mais j'aurais dû te dire, il y a Raphaël, tu sais, notre voisin, il voulait se débarrasser de la table. Ah mince. Eh bien oui, et ça fait deux fois qu'on me dit, tiens, quand je prends une décision, je dois la prendre avec d'autres. Voilà, par exemple. Donc voilà, la parole de Dieu, oui, le Seigneur nous parle. C'est extraordinaire hein, quand même. Voilà, et ensuite nous avons l'introduction au Sanctus. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, Dieu, nous te chantons. Voilà. Avec les anges et tous les saints, nous te chantons. Donc ça veut dire que voilà, nous allons rejoindre la liturgie céleste. Dans la prière eucharistique, on va même plus loin. Ainsi les anges innombrables qui te servent jour et nuit se tiennent devant toi. Et contemplant la splendeur de ta face, n'interrompent jamais leur louange, unis à leur hymne d'allégresse, avec la création tout entière qui t'acclame par nos voix. Dieu, nous te chantons. Donc là, dans la prière eucharistique numéro 4, on est en train de dire qu'on est avec les anges, et en même temps, on emporte la création tout entière, avec la création tout entière qui t'acclame par nos voix. La création, elle ne peut pas beaucoup chanter. Oh, si, les arbres, c'est sûr. En se dirigeant vers le ciel, ils nous disent que nous devons élever notre cœur. Quand je vois un arbre, je comprends que mon cœur, il est fait pour être au ciel. Mais bon, à part les arbres, les limaces, bon, elles ont du mal à chanter la gloire de Dieu. Alors, c'est moi qui vais être leur voix. Je vais être la voix de la limace, la voix de l'escargot. Et nous acclamons le Seigneur par le Sanctus. C'est tellement extraordinaire, cette œuvre de salut que j'ai fait mémoire. C'est tellement grand que je veux rentrer dans la jubilation. Et tout de suite, je passe aux travaux pratiques, tout simplement. Et je chante le Sanctus. Hein. Alors ce Sanctus, il vient de deux textes, du livre d'Isaïe au chapitre 6 et du psaume 118. Le livre d'Isaïe, je vous lis comment ça se passe. L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône grandiose et surélevé. Toujours cette idée de hauteur. Sa traîne emplissait le sanctuaire. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, ayant chacun six ailes, deux pour se couvrir la face, deux pour se couvrir les pieds, deux pour voler. Ils se criaient l'un à l'autre ces paroles. « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Sabaoth. Sa gloire remplit la terre. » Les montants des portes vibrèrent au bruit de ses cris et le temple était plein de fumée. Alors je dis, « Malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au sein d'un peuple aux lèvres impures et mes yeux ont vu le roi, le Seigneur des armées. L'un des séraphins vola vers moi, tenant dans sa main une braise qu'il avait prise avec des pains sur l'autel. Il m'en toucha la bouche et dit, « Voici. » Ceci a touché tes lèvres, ta faute est effacée, ton péché est pardonné. Voilà. Donc, Isaïe 6, chapitre 6, verset 3, voilà. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Donc nous sommes en présence de Dieu. Nous prenons conscience que nous sommes comme le prophète Isaïe, nous sommes dans le temple et Dieu est là. Hein, c'est important de ne pas réduire toujours la présence de Dieu au moment de la fraction, des paroles consécratoires. Bon. Chez les orthodoxes, le moment, c'est plutôt, l'épiclèse, sanctifie ses offrandes en répandant sur elle ton offrande. Là, c'est très grand chez les orthodoxes. Chez nous, c'est plus le moment de la consécration, où là, on va se mettre à genoux. Mais voilà, mais est-ce que c'est le moment de l'épiclèse? Est-ce que c'est la consécration, le moment où il y a... Enfin, la prière eucharistique, il faut la prendre dans son ensemble. Vous voyez, ce n'est pas, c'est pas un moment magique qui fait que tout bascule. Voilà, c'est l'ensemble de la prière. Bon. En tout cas, vous voyez, dès le Sanctus, je prends conscience de la présence de Dieu. Je suis au ciel, comme Isaïe, le prophète, et je suis aussi sur la terre, avec le psaume 118. Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Ça, c'est pas dans le livre d'Isaïe, chapitre 6. Ça, c'est le psaume 118, les versets 25 et 26. Donc vous comprenez que le Sanctus est un mélange de deux textes, du livre d'Isaïe au chapitre 6 et du psaume 118. Ce psaume 118 sera repris à la liturgie des rameaux, c'est-à-dire à l'entrée de Jésus à Jérusalem, où les enfants, les gens, acclament le Seigneur entrant dans le temple. Donc vous voyez, là on est vraiment dans une liturgie toute simple, très populaire, où on acclame le Seigneur qui rentre dans le temple. En effet, après le Sanctus, le Seigneur va rentrer dans son temple à travers son corps et son sang d'une manière plus forte. Et donc, nous commençons à acclamer cette entrée du Seigneur. Nous sommes comme des enfants, voyez, à Jérusalem, en train d'applaudir le Seigneur, et nous sommes aussi dans la gloire avec les saints, avec les anges, avec les séraphins. Nous sommes au ciel et nous sommes sur la terre. Nous allons entrer dans le mystère de la Semaine Sainte. Je prends le texte numéro 6. C'est un texte de Maurice Vindel. Le christianisme, tel qu'il est en son essence et tel qu'il vit dans la liturgie, a su concilier ces deux aspects du divin, l'être et l'amour, et unir dans sa piété le sens de sa transcendance ineffable de Dieu avec le sens de la plus grande dilection. C'est pourquoi il a pu joindre ensemble le Sanctus du prophète Isaïe et le Benedictus de l'évangéliste Matthieu. Isaïe, foudroyé par la gloire du Seigneur et pensant mourir sous le coup de sa vision, et les petits-enfants escortant avec des palmes le Sauveur sur son ânon. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. Sans renier de la sublimité du prophète, Matthieu la transfigure par la confiance libre et joyeuse de l'enfance.
C'est beau.
Donc voilà. Donc ça veut dire, vous voyez, le Sanctus, on ne remplace pas par des petits mots, je sais pas quoi. Saint le Seigneur de l'univers, Saint nanana, berger de gloire, nanana. Je suis désolé, c'est Isaïe 6 et psaume 118. On a cette communion avec ces deux textes, ça a été ciselé, c'est grandiose. Bon. Voilà. Petit mot avant la suite du Sanctus. Pour vous situer bien chaque prière eucharistique. Les prières eucharistiques 1 et 3. 1, c'est donc le grand canon romain. Et la prière eucharistique numéro 3 ont des préfaces libres. Vous pouvez prendre n'importe quelle préface. Je dis ça pour ceux qui préparent un missel. Ou... Enfin, je sais pas. Bon. La prière eucharistique numéro 4, elle a une préface fixe. Ça veut dire que la prière eucharistique, c'est cette grande prière où on raconte toute l'histoire du salut. Ça vaut le coup de la lire une fois. On l'a dit assez peu parce qu'elle est un petit peu longue. Donc la 4, vous pouvez pas choisir n'importe quelle préface. La prière eucharistique numéro 2 a une préface proposée. Mais elle n'est pas obligatoire. Voilà. 2. Mais on peut prendre d'autres préfaces. Ça va? Sur chaque prière. Bon, c'est pas très important. Hein. Ça, c'est tous les curés, ça. Hein?
C'est de la cuisine.
C'est de la cuisine, oui. Ah, des préfaces, je sais pas, il y en a 60 à peu près. Je pense, avec les saints, les. Ben, dans votre missel, pas dans votre magnificat, mais dans le missel, oui. Tous les préfaces de l'Avent, du Carême et l'Aca, des saints, des martyrs, les préfaces à l'Esprit Saint, vous en avez 2, je crois. Vous en avez beaucoup quand même. Hein. Peut-être pas 60, mais il y en a un bon paquet. Hein. Non, et puis après, vous en avez pour, je sais pas, pour la Vierge Marie, vous en avez un nombre très fort. Hein. Non, la Vierge Marie, elle a au moins 20 déjà, hein, dans le rituel marial. Alors ensuite, je continue. Toi qui es vraiment saint, vous voyez, on reprend le Sanctus. Toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. En fait, je suis la messe, hein, vous avez compris, la prière eucharistique. Je ne vous ai pas donné le plan parce que je suis bêtement. Hein, bon. Donc là, je vais intituler cette partie du Sanctus à l'Épiclèse. L'Épiclèse, c'est la prière sur les offrandes. Du Sanctus à l'Épiclèse, on a cette petite prière. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Hein? Nous venons de dire que tu es saint, donc nous te demandons que cette sainteté qui est au ciel, en toi, elle descende sur les offrandes. Hein? C'est exactement ce que fait Jésus dans la prière sacerdotale en Jean 17. Père saint, garde-les dans ton nom que tu m'as donné pour qu'ils soient un comme nous. Pour eux, je me sanctifie moi-même afin qu'ils soient eux aussi sanctifiés dans la vérité. Pourquoi je dis Père Saint ? Dans la prière sacerdotale, je dis Père Saint, Dieu aurait pu dire, on aurait pu dire Père, je sais pas moi, Père bon, Père, non. Pourquoi je dis Père Saint ? Parce que tout de suite après, je vais demander à ce que l'homme soit sanctifié. Donc je dis, je caractérise le Père d'une certaine manière. Tu es le Saint. Ah oui, donc si j'entends tu es le saint, ça veut dire que ce que tu es, tu vas me le donner. D'accord? Voilà. Exactement. Toi qui es vraiment saint, toi qui es saint, alors sanctifie ces offrandes. Vous voyez, en quelque sorte, vous voyez, on refait comme la préface. La préface, on a dit tu as fait des grandes choses, hein? Tu as sorti d'Égypte ton peuple. Alors, sors-nous aujourd'hui d'Égypte. Là, c'est comme une mini préface, une mini mémoire. Tu es vraiment saint, alors sanctifie ces offrandes. Voilà. Ensuite, nous avons l'épiclèse sur les offrandes. Donc, nouvelle partie. de la préface qui s'adresse au Père, on passe à l'Esprit. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton Esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Dans la prière eucharistique numéro 1, nous n'avons pas l'Esprit Saint. L'Esprit Saint n'est pas nommé, on va parler plutôt de la bénédiction des dons. Je lis, « Père infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter de bénir ces offrandes saintes. Sanctifie-les pleinement, sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. » Voilà. Prière Eucharistique 4, « Que ce même Esprit Saint, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes. » Donc, celui qui va faire l'Eucharistie, c'est l'Esprit Saint. D'où le sens de l'épiclèse. Épiclèse, ça veut dire appel sûr. On fait un appel sûr. L'appel fait au Père pour qu'il envoie son Esprit et consacre le pain et le vin. Toutes les grandes œuvres, en fait, sont faites par l'Esprit Saint. Quand vous prenez la Genèse, on dit... Au début, au commencement du monde, eh bien, l'Esprit planait au-dessus des eaux. Les pères de l'Église vont dire, cet Esprit, c'est certainement l'Esprit Saint qui est là, qui va mettre en ordre ce qui est dans le désordre. L'Esprit va planer sur Marie. Elle va être couverte de l'ombre. Et nous, grâce à notre baptême, nous avons l'Esprit Saint en nous. Et l'Esprit Saint, qu'est-ce qu'il fait ? Il va nous rendre saints. Le Père nous a créés, le Fils nous a sauvés, l'Esprit va nous sanctifier, va nous rendre saints. Le Père est le Créateur, le Fils est le Rédempteur, l'Esprit est le Sanctificateur. J'ai été créé, j'ai été sauvé, oui, je suis sorti des eaux, mais il faut encore que je sois saint. Achève toute sanctification. Rends-moi saint, Seigneur. Ensuite, nous avons le récit de l'institution. Je voudrais dire peut-être deux petites choses, enfin des petits points sur ce récit de l'institution. D'abord, dans la prière eucharistique numéro 1, petit point, on nous parle, à un moment donné, les yeux levés au ciel. Je cite... non, j'ai pas le texte. Ah, ça, c'est dommage. Bon, j'ai pas le texte avec moi. La veille de sa passion, il prit le pain, etc. Et aussi, ayant levé les yeux au ciel, il rendit grâce, il le rompit et dit, ceci est mon corps, ceci est mon sang. D'accord ? Ayant levé au ciel. Alors, à ce moment-là, le prêtre, il y a marqué, doit lever les yeux au ciel. Donc, on lève les yeux au ciel. Vous avez remarqué ? Bon. Alors, c'est un geste coutumier aux Juifs au moment où ils prononçaient une bénédiction, spécialement au début des repas. Ce geste-là, vous le retrouvez au chapitre 6 de Saint Marc, verset 41, 6-41. Prenant alors les 5 pains et les 2 poissons, il leva les yeux au ciel, il bénit et rompit les pains, et il les donnait à ses disciples. D'accord ? Ou Jean 17:1. Ainsi parla Jésus, et levant les yeux au ciel, il dit, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils. » Ça va ? Voilà, ce sont petits points. Dans la prière eucharistique numéro 2, un petit point sur la liberté. C'est vraiment caractéristique à la prière numéro 2. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion. On veut nous dire que la passion, elle est libre. Voilà. Moi, j'en avais parlé au moment donc d'entrer librement dans sa passion. C'est libre, voilà. C'est lui-même qui donne sa vie. J'ai le pouvoir de la donner et de la reprendre. Voilà. Certes, le Fils est livré par les hommes. On va même dire qu'il est livré par le Père. Ça, c'est, on le dit dans la deuxième annonce de la Passion, dans l'Évangile de Marc. Le Père livre son Fils. On le dira aussi dimanche prochain dans la deuxième lecture. Mais même s'il est livré par le Père, livré par les hommes, il donne sa vie librement. Il faut tenir les deux à la fois, les trois à la fois. Voilà. Saint Augustin le dit très bien dans un texte que j'avais donné, d'ailleurs, l'année dernière, au Parcours Saint-Marc. Bon, vous pouvez me le demander si vous voulez. Ce récit de la consécration, nous l'avons d'abord reçu par Paul. C'est important, hein. C'est le premier à l'avoir écrit. Hein, faites ceci en mémoire de moi, c'est Paul. Les évangiles ont été écrits après les lettres de Paul. D'accord ? Et dans les récits, vous savez que Jean ne mentionne pas le récit de l'institution. Il remplace par le lavement des pieds. Seuls Matthieu, Marc et Luc le mentionnent. J'avais déjà parlé du corps et du sang, en disant que c'est toute l'être, toute la personne. Hein, c'est vraiment le corps et le sang, c'est tout. C'est une expression corps et sang qu'on retrouve aussi en Matthieu 16, 17. Quand Jésus pose la question à ses disciples, pour vous qui suis-je? Et Pierre dit, mais toi tu es le Messie. Et Jésus dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Voilà. Non. Hein? Ça veut dire que c'est pas ta personne. C'est pas toi, mais c'est quelqu'un d'autre. Dans cette récit de l'institution de l'Eucharistie, nous allons vivre ce qu'on appelle la transsubstantiation, donc le changement de substance. J'en avais beaucoup parlé au début, donc je ne reviens pas. Mais j'aime bien parler des quatre transformations de la messe à ce moment-là. D'abord, nous avons un changement de la violence en amour. C'est le seul sacrifice qui est un sacrifice non violent. Pourquoi ? Parce que c'est un sacrifice végétal. Hein, il n'y a pas de... C'est du pain, c'est du vin, c'est du végétal. Hein. Vous savez qu'au début, dans la Genèse, eh bien, l'homme ne doit manger que des fruits, des légumes. Il ne doit pas... Je te donne toutes les herbes... Il ne doit pas manger de petits poulets, pas de viande au départ. Et ensuite, après le péché, va arriver la violence. Et donc là, il a le droit de manger de la viande, mais pas du sang. Hein? Comme si, c'est très curieux, implicitement, le sang, comme si Dieu disait, ne mange pas le sang, ne bois pas le sang, parce que c'est moi qui vais te donner mon sang. Ça peut être, c'est une interprétation de Barthélemy, dans un livre qui s'appelle « Dieu et son image ». En tout cas, le monde de la Genèse, et du coup dans l'Eucharistie, c'est un monde de non-violence. C'est ça que je retiens. Donc, changement de la violence en amour. Ensuite, nous avons un deuxième changement, un deuxième passage plutôt, de la mort à la vie. Hein? Nous célébrons la résurrection. Hein? Nous ne célébrons pas que la mort de Jésus, nous célébrons la résurrection. Ensuite, passage du pain au vin. Du pain au vin, au corps et au sang du Christ. Donc, encore nouveau changement. On passe de la nourriture au corps et au sang du Christ. Et ensuite, nous, notre transformation à nous, nous devenons d'autres Christ. Le but de la messe, c'est que je sois changé et que je devienne le corps du Christ. Devenez ce que vous avez reçu, devenez le corps du Christ. Nous devenons d'autres Christ pour que notre violence se transforme en amour. Voilà. Tout de suite, le prêtre va élever l'hostie. Pourquoi il élève l'hostie? Alors, c'est suite à des hérésies, c'est important, ça vient du XIIe siècle. En fait, il y avait des hérésies, une des plus fameuses est celle de Béranger de Tours, qui niait la présence réelle. Et puis, il y avait aussi des erreurs liturgiques, où certains prêtres, en prononçant les paroles de la consécration, élevaient trop l'hostie, que les fidèles adoraient avant qu'elle fût consacrée. D'autres reportaient tout geste de vénération à la fin des paroles, sur le vin, pensant que la consécration n'était effective qu'à ce moment-là. Donc il y a des gens qui adorent trop tôt, d'autres qui adorent trop tard. Bon, il y a une hérésie avec Béranger de Tours, oh là là. Du coup, l'évêque de Paris, Eudes de Sully, pour réagir à ces erreurs, institue l'élévation de l'hostie après la consécration du pain. Et ensuite, il y aura l'élévation du calice un peu plus tard, donc au XIVe siècle, qui va généraliser au XVIe siècle partout. On trouvait que c'était moins important d'élever le calice parce que, en fait, on ne voit pas. Donc, bon. Voilà. Donc, c'est important. Voilà. Ça vient de ce moment-là. Face à ça, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, je vais m'agenouiller. Si je peux. Si ma santé me le permet. Donc là, je ne vous lis pas, mais vous lirez chez vous le texte numéro 7, où la présentation du missel romain dit que c'est bien de se mettre à genoux. Voilà. Donc, il y a plusieurs gestes dans la liturgie. Des fois, on est debout. Des fois, on est assis. Voilà.
Il y en a d'autres qui disent qu'il faut être debout parce que le Christ est ressuscité.
Ben là, il y a marqué. Alors, on va lire comme ça. Ça ne va pas faire de débat. Je crois que c'est bien de lire. Texte numéro 7. Ils s'agenouilleront pour la consécration, à moins que leur état de santé, l'exiguïté des lieux ou le grand nombre des assistants ou d'autres justes raisons ne s'y opposent. Ceux qui ne s'agenouillent pas pour la consécration feront une inclinaison profonde pendant que le prêtre fait la génuflexion après la consécration. Ils constitueront un seul corps, que ce soit en écoutant la parole, en prenant leur part aux prières et aux chants, ou bien surtout par l'oblation commune du sacrifice et la participation commune à la table du Seigneur. Cette unité se manifeste avec beauté du fait que les fidèles observent les mêmes gestes et les mêmes attitudes. Voilà. Alors, après on disait, oui, il faut rester debout parce que ça signifie que nous sommes ressuscités. Bon. Mais ça, vous prenez tel texte de Père de l'Église et qui vous dit ça. Mais ceux qui font autorité dans l'Église, c'est pas tel Père de l'Église. C'est l'Église. Donc l'Église, elle fait une présentation du missel romain en disant il y a quelque chose qui est juste, c'est ça. Voilà. C'est pas un dogme, ce qu'elle dit. Mais c'est. Ça peut changer. Peut-être que dans deux siècles, on fera autrement. En tout cas, l'Église, depuis 2002, nous dit que ça va être à genoux. Voilà. Bon. Alors, ensuite, nous avons l'anamnèse. Je termine par ça, j'ai déjà 10 minutes de retard. Anamnèse, ça vient de Anna, hein, anaphore, porter haut. Et mnèse, mnésis, porter la mémoire. Donc l'anamnèse est donc l'acte de se souvenir en haut, ou plus clairement, l'acte de se souvenir en remontant dans le passé. L'anamnèse, c'est « Nous proclamons ta mort, il est grand le mystère de la foi. » Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Je fais mémoire. Nous proclamons ta mort. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Ça, c'est inspiré de 2 Corinthiens 11, 26. Saint Paul donne le récit de l'institution. Et ensuite, il y a cette mention. Et nous attendons ta venue dans la gloire au sens, nous avons déjà un gage de la vie éternelle. Nous avons déjà le pain qui nous permet d'avoir un pied au ciel. Il est grand le mystère de la foi. Une autre formule, c'est quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Et là, je réponds, nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, nous attendons que tu viennes. Ou la dernière chose, proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. Donc vous regarderez bien, vous avez 3 formules. Pourquoi c'est important? Parce que on ne répond pas de la même manière. Donc c'est, moi je, mon truc mnémotechnique c'est IN. Alors IN c'est, il est grand le mystère de la foi, quand il y a I, il est grand, c'est nous proclamons. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue. Je ne vais pas chanter parce que je ne chante pas bien. Et donc voilà. Le prêtre dit, il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Par contre, s'il dit, proclamons le mystère de la foi, P. Alors là, c'est gloire à toi qui étais mort. Alors, PG. Moi, je me souviens à PGMR, présentation générale du mystère romain. Quand le prêtre dit, proclamons le mystère de la foi, P. Alors ça, c'est G. Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. Ça va ? Et alors, la dernière fois, c'est le dernier, il est moins donné, mais il est quand même donné. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Vous voyez ? Il est moins donné, mais voilà. Bon. Voilà. Bon. Et ensuite, on reprend l'anamnèse. C'est pourquoi nous aussi, avec tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse, de sa glorieuse résurrection, de son ascension dans le ciel. Vous voyez, à chaque fois, on a dit quelque chose et on reprend. Hein? Reprise de l'anamnèse. Et ainsi, faisant mémoire, etc., nous te disons, etc. Bon. Bon, je m'arrête là. Parce que je m'arrête à l'anamnèse aujourd'hui, c'est marqué dans le titre. Bon.